Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Ce matin, il est question de la pollution lumineuse. Nous allons tout d'abord parler de l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes. Grâce à une étude que vient de lancer le parc et ses partenaires, Alès Aglo et le syndicat de l'électricité de la Lozère. Et nous ferons ensuite un point d'étape sur l'avancement des travaux de modernisation de l'éclairage public dans les communes du parc. Pour cela, je suis en compagnie de Sébastien Roll, responsable du service éclairage public au SDE 48, Thomas Broussignac, chargé d'études pollution lumineuse au parc, et Richard Scherrer, délégué territorial du massif Causse-Gorge au parc et en charge également du dossier RIS. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pourquoi le parc a-t-il décidé de lancer une étude de la pollution lumineuse sur les insectes, de l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes?
Alors en quelques mots, Thomas pourra compléter. On a souhaité s'investir sur ce sujet, de mesurer l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Il y a des études qui ont été faites dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais on voulait, c'était une des demandes des syndicats, des élus, de dire, et chez nous, est-ce qu'on a pu mesurer pour avoir des éléments chez nous, en Lozère ou dans le Gard? Et du coup, on a lancé une première étude cette année avec plusieurs formules.
Donc ouais, on a choisi de s'intéresser aux invertébrés parce que 65% d'entre eux sont nocturnes, qui constituent la base alimentaire pour de nombreuses espèces et que leurs effectifs sont en chute libre. On parle d'une diminution de 80% des effectifs en Europe, d'après une étude faite en Allemagne. Aussi parce que les impacts de la pollution lumineuse sont complexes à appréhender sur ces espèces, car leur réponse peut varier en fonction de l'ordre ou de l'espèce considérée. Et enfin, pour le côté pratique, parce que les protocoles pour étudier les effets de la pollution lumineuse sur d'autres espèces sont plus complexes à mettre en œuvre, par exemple sur les mammifères, sur les oiseaux ou sur les reptiles. Les plus simples sont les chauves-souris et les invertébrés nocturnes.
Donc, qui sont les partenaires de cette étude et où est-ce qu'elle se déroule?
Donc, il faut savoir qu'il y a deux études légèrement différentes. La première étude se déroule sur le Cosmejean, sur le hameau du Villaret. Elle se réalise en partenariat avec le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère, donc le SDEE 48. Et la seconde étude se déroule dans la commune d'Alès, en partenariat cette fois-ci avec Alès Agglomération.
Sébastien Roll, vous voulez peut-être ajouter quelques mots?
Non, après on est toujours partenaire avec le PNC sur la RIS, donc on a mis à disposition des moyens humains et matériels pour que l'étude se passe dans les meilleures conditions sur le site du Villaret. On a installé trois candélabres, un sans lanterne, un avec une lanterne à température de couleur de 3000 degrés et un troisième avec une température de degré de 1800 degrés, ce qui permet du coup aux techniciens du parc d'avoir les différentes configurations et de permettre le bon déroulement de leur étude.
Donc ce sont des mâts de quelle hauteur?
C'est des mâts de 4,50 m qui sont positionnés à différents endroits sur le site et avec un système justement, les techniciens pourront mieux en parler que moi, avec un système pour déplacer et relever les pièges facilement.
Et donc c'est en place depuis quand?
Donc on a l'installation s'est faite le 28 juin et ensuite on a commencé les mesures la semaine d'après en fonction, parce qu'il y avait eu des conditions météorologiques pas très bonnes pour le faire la semaine les jours qui suivaient. Et donc comme l'a dit Sébastien, on a deux températures de couleurs différentes, donc une première lampe de 1800 Kelvin et une deuxième lampe de 3000 Kelvin. Donc la température de couleur, ça correspond au rendu de la lumière qui va à peu près du orange, donc pour la température de 1800 Kelvin. Jusqu'à 8000 degrés, mais là, on parle plus. Nous, celle-là, c'est du 3000 Kelvin et c'est plus du blanc chaud. Et on a toujours un point sombre pour qu'il sert de témoin. Et donc, on va installer des pièges à interception en vol sous ces luminaires afin de capturer les invertébrés qui volent à proximité de la source lumineuse. Et à Alès, l'expérience a commencé le 5 juillet. Le dispositif, c'est le même. Mais l'étude ici, on va comparer des luminaires de 3000 Kelvin avec des modalités d'éclairage différentes. Donc, trois lampes avec diminution de puissance, trois avec extinction en cours de nuit et toujours trois témoins sombres pour comparer aux conditions normales.
Et donc ces températures, elles n'ont pas été choisies au hasard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment elles ont été choisies ? Pourquoi ces températures ?
Alors, ces températures, elles ont été choisies en fait dès le départ. Et lorsque le parc nous a contactés pour travailler sur la RIS, on a fait un groupe de travail qui était assez actif. Et qui est toujours actif d'ailleurs, où on a déterminé, les biologistes nous ont dit, ben voilà, nous, ces températures de couleur, c'est celles qui ont le moins d'impact sur la biodive, celles-là, c'est celles qui ont le plus d'impact. Nous, on a amené notre approche technique, eux, ils ont amené leur approche de technicien, et ben, en fait, on s'est entendu sur des températures de couleur. Alors, quand on dit la température de couleur, c'est le style de lumière, hein. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est du orange ou du blanc. Et au fur et à mesure que le groupe de travail s'est installé, a travaillé ensemble, on a déterminé des critères sur les températures de couleur. Donc aujourd'hui, le parc a édité en collaboration avec les deux syndicats, Gare et Lozère, et puis Alès Agglo, un guide de l'éclairage. Et dedans, on retrouve toutes ces caractéristiques selon où on se trouve dans le parc, en zone d'approche ou en zone de cœur, et pour qu'il y ait le moins d'impact justement sur la biodiversité.
Et ça faisait partie, là je complète ce que dit Sébastien, ça faisait partie du dossier de candidature pour le label RIS, donc de se mettre d'accord sur quel matériel on allait poser. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui a été mise en place par le gouvernement, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, l'idée, c'était de dire, on diminue la couleur, ce que dit Sébastien, hein, pour limiter l'impact à la fois sur la biodiversité, et puis aussi pour l'œil humain, c'est-à-dire d'avoir des lumières moins agressives. Et donc on tire en zone cœur, ce qu'il disait, sur des températures plus chaudes, plus sur le jaune, donc sur des LED ambrés. Et en dehors, donc en aire d'adhésion, on a des températures un peu plus claires. Voilà, mais on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que vous allez poser, vous, syndicats et communes, quoi.
Donc comment sont effectuées ces mesures, hein ? C'est pas toutes les nuits. Enfin, quel est le protocole ?
Ouais, donc on va avoir 6 nuits de mesures sur le Villaret, et on s'est installé donc de nuit. Donc les pièges sont montés sous les luminaires, comme je le disais, et les luminaires sont allumés 30 minutes avant le coucher du soleil, et on récupère les pièges 30 minutes après le lever du soleil. Donc pour cette période, ça correspond à peu près à entre 21h et 6h30. Et les pièges sont ensuite donc récupérés, et le contenu du piège récupéré pour pouvoir identifier les insectes par la suite. Et l'identification se fait jusqu'à l'ordre et jusqu'à l'espèce pour certains ordres, comme pour les papillons de nuit, pardon.
Et vous attendez à quoi en fait ? Vous avez des hypothèses ?
Oui, donc comme je disais, la température de couleur plus chaude, c'est réputé moins nocif pour les invertébrés et pour la biodiversité en général, donc on s'attend à avoir beaucoup plus d'invertébrés capturés sous la lampe à 3000 Kelvin que sous la lampe à 1800 Kelvin. Et à Alès, on s'attend à avoir davantage d'invertébrés sous les luminaires qui ont un abaissement de puissance plutôt que ceux qui ont une extinction en cœur de nuit. Et bien sûr, on pense qu'on va avoir beaucoup moins d'invertébrés sur les témoins sombres.
Donc là, vous avez déjà effectué 2 ou 3 soirées de mesures, hein, sur le Villaret et
oui,
Alès.
C'est ça. On a fait 2 soirées de mesures. Donc là, je reviens d'une soirée de mesures et une sur Alès, donc on a à peu près une cinquantaine d'invertébrés sur les pièges lumineux, à peu près 6 pour les témoins sombres, donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre les témoins sombres et les lumières. Et on a eu un record de 98 invertébrés sur un seul piège en cours d'une nuit. Et donc la plupart des insectes capturés sont des diptères, dont les représentants les plus connus sont les mouches et les moustiques, des coléoptères, donc c'est les coccinelles et les scarabées par exemple, et les hyménoptères représentés par les abeilles et les guêpes. On a aussi d'autres ordres capturés comme les papillons de nuit ou les hémiptères qui sont des punaises. Et après, il y a encore d'autres ordres, mais c'est beaucoup moins parlant et ils sont beaucoup moins connus. Mais on rencontre une assez grande diversité quand même dans chaque piège.
Donc ça correspond à peu près à ce que vous attendiez ?
Oui, pour l'instant, les hypothèses sont plutôt bonnes et il faut attendre la suite, mais c'est plutôt bon.
Sur ce, je vous propose de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Ah ben, il n'a pas.
Was laying a loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star.
Nous sommes de retour pour parler de la pollution lumineuse qui a non seulement un impact sur la biodiversité nocturne, mais aussi elle a des conséquences sur la santé humaine. Elle perturbe notamment notre sommeil. Pour la réduire, un vaste programme de rénovation de l'éclairage public a été engagé avec les syndicats de l'électricité du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche et à l'Aglo depuis maintenant 5 ans. Alors tout d'abord pour la Lozère, Sébastien Roll, où en est-on ?
On en est qu'aujourd'hui, 34 communes ont réalisé des travaux sur la rénovation de leur parc d'éclairage public, grâce à différents programmes. Hein, ça avance tout doucement, mais ça avance sûrement, comme on dit. Je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Hein, le résultat le plus flagrant aujourd'hui pour les gens qui connaissent, quand on vient du COS et qu'on redescend sur Ispagnac ou Quézac, quand on connaît l'état il y a quelques années en arrière où on avait cette grosse pollution lumineuse qui envoyait de la lumière partout, jusque sur les collines, sur les contreforts. Et aujourd'hui, quand on arrive en haut de cette côte, on se dit, ils ont supprimé Quézac et Ispagnac. On ne voit pratiquement plus ces deux communes. Hein. Le flux lumineux est vraiment rabattu vers le sol. Et je crois que c'est l'exemple plus concret, le plus visible surtout sur le secteur, c'est qu'il suffit de descendre sur Quézac, Ispagnac le soir lorsque l'éclairage public est allumé, on voit pratiquement plus les deux communes. Donc ça, je pense que c'est le résultat vraiment le plus visible sur le territoire.
Vous disiez 34 communes, mais sur combien ?
Alors sur l'ensemble des communes du parc, le nombre exact, Richard va nous le confirmer peut-être.
De communes qui ont
34 communes qui ont rénové l'éclairage public sur la zone parc. Alors moi, je parle que pour la Lozère.
Oui, tout à fait. Mais pour la partie Lozère, on peut dire qu'on est à quoi ? Un tiers, la moitié
Ouais, il y en a une bonne soixantaine qui ont engagé des programmes de rénovation sur tout le parc, donc Gare Lozère. Et au total, je préfère parler en nombre de points lumineux, parce qu'on est à... Il y a à peu près 20 000 points lumineux sur toute la zone du parc national, donc Gare, Lozère et Ardèche. Il y a trois communes en Ardèche. Donc sur ces 20 000 points lumineux, il y en a 7 600, donc en gros un tiers, qui ont été rénovés sur les trois départements. Donc ce qui est quand même très bien et le mouvement continue.
Tout à fait. Pour la Lozère, c'est un peu plus de 1 300 lanternes rénovées.
D'accord. Et pour plus précisément la partie cœur de parc, donc qui correspond à la zone cœur de la réserve internationale de ciel étoilé, là on est sur les mêmes
On n'est pas du tout sur les mêmes volumes parce que la zone cœur du parc, il y a environ 600 habitants. Donc c'est essentiellement en Lozère. Il y a 164 points lumineux. Donc le SDE a fait un comptage très précis avec des relevés terrain en sortie de confinement pour tout nous diagnostiquer et refaire un point très précis. Et sur ces 164 points lumineux, il y en a 124 qui ont été changés. Donc il en reste une petite quarantaine. Et c'est ça qui conditionne notre label de réserve de ciel étoilé. C'est la qualité qu'on peut... La rénovation qu'a effectué le... Donc c'est tout en Lozère. Donc c'est tout réalisé par le SDE 48.
Oui, parce que ça, vous devez, enfin, chaque année, le parc doit justifier de l'avancée des travaux auprès de l'organisme qui a labellisé. Hein, ça fait partie du cahier des charges.
Tout à fait. On a des échéances à 5 ans, quoi, voilà, tous les 5 ans. L'objectif, est évidemment, étant de tout rénover. Il y en a deux dans le Gard, sur la commune d'Alzon. Autrement, tous les autres sont en Lozère. Et voilà, on s'y attelle avec le syndicat et les maires.
Et est-ce que vous avez des retours d'expérience des communes qui ont effectué ces travaux qui sont engagées dès les premières années, depuis 2017, là, ça fait quand même quelques années. Quel est le retour ?
Aujourd'hui, on peut partir du principe que le retour est positif, hein, parce que tant qu'on ne nous dit rien, c'est que ça va. Donc non, personne n'est venu se plaindre, personne n'est venu dire on regrette de l'avoir fait. Aujourd'hui, quand on rencontre les élus, ben, forcément, le sujet vient sur la table et tout le monde nous dit, ben, écoutez, c'est quand même beaucoup plus confortable, quoi. Donc il y a cet aspect aussi protection du ciel étoilé quand l'éclairage public est allumé, mais il y a aussi l'extinction où il y avait beaucoup de craintes de la part des différents intervenants. Et en fait, ben, on voit très bien qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre avec l'éclairage public coupé à 3h du matin. Hein. On ne nous a jamais rappelé pour venir remettre en route l'éclairage public en milieu de nuit. L'éclairage public installé aujourd'hui crée quand même un confort visuel qui est plutôt sympathique. On a bien rabattu le flux vers le sol. On est sur des températures de couleur, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont confortables. Et on nous dit même, on n'avait pas fait attention, mais il y a ça dans la rue. Voilà. Donc, en fait, plutôt que de tout envoyer en l'air, on a vraiment renvoyé tout vers le sol, là où il fallait. Et donc, et puis surtout, voilà, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus confortable. Et en fait, oui, vous aviez raison. Hein, à 3h du matin, l'éclairage public, il ne sert à rien dans nos petits villages. Quoi.
Ce que dit Sébastien est vraiment éloquent, parce qu'en fait, quand on n'a pas de retour, quand les élus ne sont pas contents, ils le font vite savoir. Parce que la population réagit, et donc en général, ça remonte assez vite. Et on a bien vu sur pas mal de communes où il a fallu un peu de temps parce que y avait des petites craintes. Et la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Et ben le retour, c'est qu'en milieu rural, il n'y a pas d'enjeu d'éclairer après 11h, minuit, parce qu'il n'y a pas une grosse activité. Il y a des communes qui maintiennent un peu d'éclairage jusqu'à des fois minuit ou 1h parce qu'il y a une activité touristique, où il y a des commerces, où il y a un hôpital, voilà. Il y a une raison. S'il n'y a pas de raison, les maires ont vite compris qu'ils pouvaient faire des économies. Tout le monde était content. Il n'y avait pas trop de réclamations. Et puis c'est bon pour tout le monde, pour les finances et pour la biodiversité.
Et justement, je voulais rebondir sur ce que disait Richard. En fait, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ça corresponde à l'activité de la commune. Voilà. Et ça, on n'a pas ciblé un peu les besoins des différentes personnes de l'activité, donc commerce, hôpital, maison de retraite, ça ne peut pas marcher. C'est un travail quand même, ça se prépare. Et puis une fois que c'est comme tout, et quand c'est bien préparé, forcément ça ne peut que fonctionner.
Et il y a aussi eu le prix de l'énergie qui a flambé, donc c'était aussi pour eux un argument supplémentaire pour faire ces travaux.
Tout à fait. Ça a été surtout une porte d'entrée. Hein. L'économie financière, l'économie d'énergie a quand même été la porte d'entrée.
Par exemple, on n'a pas parlé des financements, mais y a une partie qui est subventionnée. Donc quelle part reste à la charge des communes?
Alors, à l'époque, c'était aux alentours de 20 à 30% à la charge des communes, oui, à peu près. Oui. Donc, on a pu bénéficier de fonds européens, de fonds FEDER, qui étaient portés par la région. Les communes ont bénéficié aussi de financement de la part du parc aussi, dans le cadre du plan de relance, et aussi du financement du SDE. Donc voilà, là, les communes ont été accompagnées esthétiquement et financièrement.
Et suivant les programmes, ce que dit Sébastien, c'est qu'il peut y avoir des opportunités financières avec des fonds qu'on va chercher, que le syndicat apporte. Et suivant les programmes, ça peut être... les communes peuvent financer à leur charge, il peut rester 20, 30 ou 40% suivant le contexte financier et les opportunités quoi, voilà, de bailleurs.
Voilà, il faut savoir que ces critères de financement étaient aussi en fonction de l'économie engendrée. Donc une commune qui n'avait pas fait de travaux depuis 20 ou 30 ans, forcément, elle pouvait vite faire des économies. Donc elle a été accompagnée à une hauteur différente pour le financement des travaux.
Donc on parlait de rénovation, mais il y a aussi, en plus de ça, donc les coupures partielles ou totales. Donc là, c'est aussi une majorité de communes qui pratiquent l'un ou l'autre.
Alors sur le parc, moi je peux parler sur le parc, Sébastien pourra compléter. Sur les 113 communes qui sont adhérentes au parc national des Cévennes, il y en a 70 qui pratiquent la coupure, soit totale sur toute la commune, soit partielle parce qu'ils peuvent laisser un centre-ville allumé par exemple. Donc on voit que ça a vraiment beaucoup progressé et qu'il y a un intérêt financier direct et de réalité voilà, d'éclairer quand il faut, où il faut. En fait.
Oui, et puis cette dynamique, elle est installée depuis quelques années déjà. Hein. Alors on va se déplacer un peu sur le département, mais à l'échelle du département, aujourd'hui, le SDE gère 150 communes sur les 152. Les deux autres restantes sont Marvejols-et-Mandes, donc je ne pourrais pas me prononcer, je ne connais pas leur fonctionnement. Mais sur les 150 communes aujourd'hui gérées par le SDE, il y en a quand même 72 qui coupent l'éclairage public. Donc la dynamique est installée. Alors elle s'est accélérée avec le coût de l'énergie, hein, mais la première commune en Lozère à couper, c'était en 2013.
Ah oui, donc c'était bien avant les travaux, enfin bien avant le label RIS. Il y avait déjà une prise de conscience à l'époque.
Tout à fait. Et puis nous, on l'a découvert il y a 10 ans. Mais il faut savoir que dans l'ouest de la France, on coupe depuis 50 ans.
Vous en parliez tout à l'heure, Sébastien. Donc cette réduction de la pollution lumineuse, elle est visible même à l'œil nu quand on se balade la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ?
Bah, le meilleur exemple, c'est aller sur une commune qui a tout rénové. Sébastien pourra nous donner 2-3 exemples pas très loin. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup fait de travaux. Et de regarder une lampe avant rénovation. Bah, par exemple, il y a encore quelques communes, il n'y en a plus beaucoup, où il y a ces lampes un peu boules, c'est bientôt terminé, qui éclairent plus le ciel que le sol. Et puis, une lampe rénovée récemment, où on voit l'éclairage qui va au sol, et qui n'éclaire pas les façades, et qui n'éclaire pas le ciel. Des exemples de communes qui ont tout rénové.
Bon, on a Espagnac à proximité. Voilà. Hein. Espagnac, où la majorité de la commune est rénovée. Et l'exemple voilà, le plus concret, c'est vous allez dans une rue et vous regardez, vous cherchez une lanterne qui est sur une façade, et vous voyez la limite, en fait, la limite de l'éclairage. Et la façade, en fait, c'est le miroir de l'éclairage, tout simplement. Et on voit bien qu'au-dessus de la lanterne, il n'y a plus rien. C'est noir, tout simplement.
Donc ça veut dire que la qualité de ciel, qui était déjà très bonne, c'est encore amélioré. Ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont encore faites. Donc on s'améliore d'année en année encore.
Alors on s'améliore, oui, c'est sûr. On sait qu'il y a moins de flux lumineux. On a rénové, donc on a pu calculer, grâce au travail des syndicats, l'économie en tonnes de CO2. En kilowatts et économisé. Par contre, sur la qualité du ciel, le bureau d'études qui nous accompagne, on a un bureau d'études qui nous accompagne pour faire des mesures. On a un système de mesure avec des boîtiers automatiques qui s'appellent des DINOX. Et l'échelle de la pollution lumineuse, c'est une échelle qui va de 17 à 22. 17 étant le centre des grandes agglomérations, Montpellier, Paris, et 22 étant le Sahara. Donc pour obtenir le label, on avait besoin d'un minimum. Plus de 21 de qualité de ciel étoilé. On sait qu'on a des très belles mesures aujourd'hui. Les endroits où on mesure, donc c'est plutôt les sommets où on a déjà une très bonne qualité. Et pour mesurer l'impact des travaux que font les communes et les syndicats, il faudra encore attendre quelques années. Par contre, on sait qu'on a des très bonnes mesures malgré tout. Par exemple, alors c'était la mesure exceptionnelle qu'on avait eue en mars l'année dernière sur le Cosmé-Jean, donc au Villaret, où pendant 3 nuits, on a réussi à avoir un chiffre de 22, donc comme dans l'Atacama. C'était exceptionnel. Il
y sur avait 23
22 sur 22.
Ah, sur 22, pardon.
22 sur 22, donc c'était très bien. C'était exceptionnel parce qu'il y avait des conditions météo particulières. Mais on arrive sur les sommets du Mont-Lozère, de l'Aigoual, du Causse ou du haut des vallées Sémenoles, à des mesures 21,5, 21,3. Donc, en gros, on voit beaucoup, beaucoup d'étoiles et on discerne très facilement la Voie lactée. C'est ça qui est assez magique, c'est qu'on se rend compte qu'on est au milieu de cette soucoupe, voilà, de la Voie lactée. Et on voit la Voie lactée parfaitement.
Et justement, le parc n'hésite pas à valoriser le ciel étoilé en organisant notamment à l'été des animations nocturnes. Donc ce sera encore le cas cet été. Voilà.
Oui, cet été, on a pas mal de manifestations. Un petit focus sur une soirée qui est organisée le 1er août. Donc c'est des soirées lunaires. L'idée, c'est d'organiser une randonnée de nuit. Donc c'est à partir de 19h ou 20h. Et jusqu'à l'arrivée de la Lune. Donc, c'est des randonnées, soit avec un garde-moniteur pour parler biodiversité, soit avec un compteur pour écouter les contes de la nuit, soit avec un astronome amateur. Et puis, on randonne et on attend que la Lune, que le soleil se couche et que la Lune monte. Et donc, quatre soirées organisées, les quatre le même soir. Donc, c'est le 1er août, dans quatre lieux, deux en Lozère, un à Espagnac au Vigos, le deuxième à Saint-Germain-de-Calberte et deux autres dans le Gard, donc à Valrogue et à Génolac. Donc vous aurez plus d'infos sur notre site internet.
Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou alors la plateforme destination où vous retrouvez l'ensemble des animations estivales, hein, pas seulement les animations nocturnes. Sur ce, je vous remercie. On se retrouve très vite. À bientôt. Bonne journée.